Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Gilles Denigaud. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir pour vous découvrir un peu mieux. On vous connaît tellement dans la région et si peu. Je vais dire pourquoi tellement et si peu, parce qu'on connaît votre carrière de syndicaliste, de personnage engagé dans la vie politique. Et plus on vous découvre, plus on découvre à la fois une personnalité qui est attachante et qui a d'abord un long parcours militant derrière elle et qui n'est pas aussi caricaturale que peut-être on pourrait l'imaginer. Parce que vous avez été copain avec Cohn-Bendit, vous avez été chez les écolos, etc. Et puis dans vos prises de position, souvent, on est loin de la caricature, j'allais dire gauchiste, la caricature, voilà. Et c'est là où vous surprenez. Alors c'est pour ça que j'avais envie de faire toute cette série de rendez-vous avec vous, Gilles Denigaud. Politiquement, il est difficile de vous situer.
Oui, bah oui, c'est peut-être et tant mieux. En fait, j'essaye depuis toujours, hein, parce que je me suis intéressé à la question sociale, parce que je considérais que c'était un problème lié sans doute à mon enfance. Hein. Moi, je suis issu d'une famille ouvrière et paysanne, brieronne, bretonne de surcroît, hein, ici, en Brière. Une famille pauvre, j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans. C'est ma mère qui nous a élevés, ma sœur, mon frère et moi, durement. Elle a travaillé très dur, elle a joué le double rôle et puis ben moi je me suis débrouillé, j'ai pas fait d'études, j'ai fait que l'école primaire. Et à l'époque c'était l'école de 6 ans à 14 ans, à Saint-Lifard, tout près d'ici, et le certificat d'études à la clé. Et à la sortie du certificat d'études, j'ai pas fait le collège, vous voyez. Et à la sortie du certificat d'études, ben il fallait manger, il fallait travailler. Et j'ai commencé directement un apprentissage à l'âge de 14 ans. De 14 à 16 ans, j'ai fait un apprentissage. J'étais intéressé par les métiers de bouche, le contact avec les gens, et je suis devenu boucher. C'est mon premier métier. J'ai fait ça pendant 9 ans. J'ai beaucoup aimé. Donc à 16 ans, après l'apprentissage, j'ai fait mon apprentissage à Saint-Mars-sur-Mer, commune de Saint-Nazaire, enfin un quartier de Saint-Nazaire, on peut dire commune de Saint-Nazaire, ça va pas être bien. Et je suis parti travailler à Paris, comme beaucoup. J'y travaillais l'hiver. Et l'été, quand arrivait le printemps, mai-juin, j'étais attiré par la mer et ma région, et je revenais faire des saisons à Pornichet et dans différents endroits. Voilà, j'avais une vie familiale, je me suis marié très jeune, donc ça a été une vie assez dure. Mais c'est à Paris que j'ai rencontré mai 68, j'avais 20 ans. Et c'est là que j'ai rencontré des tas de personnages. Je m'intéressais à la situation, je lisais beaucoup, beaucoup, de tout. Je cherchais ma voie et c'est là que j'ai rencontré des personnages très différents dans la mouvance de l'époque, qui était une mouvance qu'on va situer à l'extrême gauche, évidemment. Et j'ai rencontré plein de gens. Alors, par curiosité, des gens adorables, des gens détestables parmi eux.
Qu'entendez-vous par extrême gauche ?
Parce que l'extrême gauche, à l'époque.
Moi, je dirais que c'était plutôt des libertaires.
C'est ça.
Oui. Est-ce que les libertaires sont à l'extrême gauche ? Je ne les classe pas à l'extrême gauche.
Vaste sujet, parce qu'après, on va disséquer un peu plus. Si on va dire qu'il y a les anarchistes qui s'en réclament sans trop savoir ce que ça signifie. Et il y a les libertaires qui ne veulent pas être dans la même, dans la même case. Hein, c'est encore un autre sujet. Moi, pour moi, la terminologie du libertaire, je me situe dans celle-là. C'est quelqu'un qui veut rester libre.
Oui.
Hein ?
Donc c'est pas d'extrême gauche, parce qu'en réalité...
C'est ça. Et donc voilà pourquoi, pour aller au bout de mon propos, certains étaient détestables, parce qu'en vérité ils étaient plus sectaires que ceux qu'ils condamnaient, pour beaucoup d'entre eux. D'autres étaient adorables, parce qu'ils avaient cet esprit libertaire, cet esprit d'être libre, cet esprit de curiosité, cet esprit de partage. Et je m'y suis retrouvé avec beaucoup d'entre eux. Mais j'ai vu bien vite les limites de leur vision politique. C'était l'époque, hein, 68, 71, voilà. C'était l'époque où ces fils de bourgeois, entre guillemets, ou filles de bourgeois, mais principalement ces fils de la petite bourgeoisie, il y avait la politique des établis, où ils venaient et quittaient les universités et tout pour venir à l'usine, hein, et essayer de devenir l'avant-garde du prolétariat pour l'emmener à la révolution
alors
sociale.
Ils n'avaient jamais connu le prolétariat.
Ils ne l'ont jamais connu, ils ne le connaissaient pas.
C'était des fils à papa.
Moi, j'ai vu des braves gens. Oui, bien sûr, c'était des fils à papa. Certains étaient adorables, hein, je m'en suis fait des amis, beaucoup le sont restés, comme l'écrivain Jean Rollin, de qui je suis resté très proche, qui a été établi à Saint-Nazaire avec d'autres. Mais ils ne connaissaient rien de la classe ouvrière, de leur misère. Ils avaient tendance à l'idéaliser. Donc, quand je les entendais parler de la classe ouvrière à l'époque, ils n'en voyaient pas les travers. Les ouvriers ont leurs travers, comme d'autres, et aussi leur immense qualité. Ils me faisaient penser à ceux qui, aujourd'hui, voient le peuple partout. Le peuple partout, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Hein, le peuple de gauche, le peuple de l'écologie, le peuple de ceci. Donc, voilà. Et donc, ils ne connaissaient rien, la classe ouvrière. Certains de ces établis, c'était amusant, trouver un boulot en intérim au chantier naval ou ailleurs, nous, quand on quittait le boulot, on enlevait le bleu de travail rapidement dans le vestiaire. Eux, ils le gardaient, ils allaient au bistrot avec, ils avaient trouvé leur costume, quoi, leur déguisement.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne comme vous, issue d'un milieu populaire, qui n'était pas forcément la classe ouvrière, qui était la classe paysanne, donc c'était peut-être
paysanne
autre
ouvrière,
chose.
Paysanne ouvrière, mon père était plâtrier.
Hein, voilà, mais vous l'avez perdu jeune.
Oui, oui, voilà. Donc,
a pu s'entendre et avoir les mêmes idéaux que ces gens de mai 68. Qu'est-ce qui a fait aussi qu'il y a eu finalement que le Parti communiste, qui était finalement un peu hostile à cette révolution, s'en est un peu servi?
Oui, qu'est-ce qui a fait ça?
Que tous ces gens très différents.
Un événement particulier pour moi, qui est un événement privé, d'ordre privé. Je me suis marié très jeune, trop sans doute, mais très jeune. Et mon beau-père de l'époque, je me suis marié en 67, j'avais 19 ans, et mon beau-père de l'époque était une personnalité du syndicalisme nazérien au chantier naval. Il s'appelait Jules Godot. Il avait été responsable du Parti communiste, responsable de la CGT, mais il a été comme d'autres, il avait un esprit assez libre, et il a été comme d'autres, exclu, condamné par son parti. Donc mis au pilori de l'homme. L'homme qui a continué à militer syndicalement, l'homme qui s'est intéressé à une autre vision de l'économie, c'est celle-là qui m'a beaucoup intéressé, puisqu'il est devenu un des militants des théories de Jacques Dubois. Jacques Dubois, qui était un militant de l'économie distributive, fondateur de l'économie distributive, et qui avait vu dans la grande crise des années 30 une inversion irréversible allait se produire dans la société au niveau mondial, dans les pays industrialisés. On allait, pour la première fois de notre histoire et de manière, selon lui, irréversible, produire de plus en plus de biens de consommation avec de moins en moins de monde au travail.
Quel visionnaire.
C'est-à-dire la grande relève des hommes par la science, le journal de Jacques Dubois. Et Jules Godot, donc mon beau-père, était un militant de l'économie distributive, des groupes de salariés pour l'économie distributive. Alors je lisais, je regardais ces choses-là simultanément à mon engagement un peu d'activiste avec des militants dits libertaires dans la mouvance post-68arde. Et je voyais les lacunes des autres quand je me confrontais aux idées de mon beau-père qui, lui, était ancré dans la réalité sociale et dans la réalité économique. Donc pour moi, ça a toujours été quelque chose de compliqué. Mais ces idées-là, de l'économie distributive que j'ai longtemps portées, y compris imprimé à mon propre domicile la revue mensuelle que nous faisions au niveau national à Saint-Nazaire, l'intersyndicaliste, donc ma formation syndicale, c'était de dire c'est le mouvement syndical qui est ou devrait être dans la société la force du changement, parce que ce sont les travailleurs qui produisent et vendent la production. Le politique n'est qu'une superstructure, le politique en sens partisan, une superstructure dont l'économie a besoin pour vivre et se développer. Mais les acteurs dans la relation capital-travail, ce sont les travailleurs. S'ils s'organisent syndicalement, ils peuvent faire une société vertueuse et une société qui nous conduirait vers l'économie distributive. J'ai longtemps milité pour ça. Je considère que les ingrédients de ces théories-là sont pertinents, toujours, mais comme on dit, les conditions objectives ne sont pas réunies pour y aller, donc il faut se contenter de choisir les moins mauvais réformistes dans la politique, à défaut de pouvoir transformer la société par les forces qui sont dans le mouvement ouvrier, à savoir un syndicalisme très différent de celui que l'on connaît, très différent de celui qu'on connaît. Alors c'est compliqué ce que je dis, mais c'est ça qui a forgé l'intérêt intellectuel avec les militants post-68 et le réalisme des travailleurs que j'ai pu côtoyer, qui étaient en marge des syndicats traditionnels, qu'ils soient à la CGT ou autres syndicats à l'époque. Force ouvrière était puissant, la CFDT l'était un peu moins qu'aujourd'hui. Mais c'est ça qui a forgé la personne que je suis à peu près devenue, quoi.
Finalement, c'est cette question sociale, on a commencé l'entretien là-dessus, c'est finalement qui a été au cœur de tout votre combat politique. Ce qui est intéressant, parce qu'en réalité, la question sociale, est-ce qu'elle n'est pas finalement propre à tous les combats politiques et qui nous emmène vers des voies différentes ? Je connais des libéraux, au sens économique du terme, qui sont animés, qui défendent le libéralisme, justement, parce qu'eux-mêmes sont convaincus que c'est la question sociale. Ils sont convaincus que c'est le libre marché qui va favoriser ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, même si ce n'est pas une théorie économique avérée. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui partent de la même base arrivent à des chemins très, très différents.
Oui, après on se gargarise de mots qui n'ont plus beaucoup de sens. Oui. Toutes les économies sont libérales. Et tout dans le monde. Et après, ce sont les régimes politiques qui gouvernent ces économies, entre guillemets, qui ont le pouvoir de gouvernance, qui sont catalogués à droite, à gauche, centristes, etc., voire autoritaires, comme dans les pays de l'Est, ou des dictatures, comme on peut connaître en Chine ou en Union soviétique pendant toute une époque. Donc le problème après, le deuxième problème et la deuxième phase, c'est qu'à défaut, moi, dans mon parcours, à défaut de trouver des solutions cadrant avec les idées qui sont les miennes, celles de l'économie distributive. Et cette économie distributive qui entraîne la transition écologique dans son mouvement. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et donc je me suis ensuite, j'ai été obligé, enfin obligé à rien, mais je me suis senti habilité à dire il faut que nous choisissions les réformes qui soient les moins mauvaises pour les travailleurs et pour la société. Parce qu'il peut y avoir des bonnes réformes pour les travailleurs ou une catégorie de travailleurs qui ne sont pas des bonnes réformes pour l'ensemble de la société. Hein, il y a des tas d'exemples dans l'histoire. Mais quand on parle de libéralisme, d'économie, toutes les économies sont libérales. Enfin, on dit aujourd'hui que l'économie est libérale. L'État intervient dans tout. Sinon, il n'aurait pas tant de dettes. Il n'y aurait pas de dettes à ce point-là.
Puis chacun a sa définition du libéralisme.
Mais là,
que l'économie chinoise, qui est une dictature, est la plus libérale au monde.
Absolument.
C'est-à-dire que le régime politique dit faites ce que vous voulez avec votre fric, tant que vous venez pas nous emmerder.
Voilà.
Ne faites pas de politique. C'est à peu près ça, non?
Absolument. Oui, bien sûr. Le champ politique chez nous, donc on verrouille tout, hein, toutes les libertés,
le pognon,
etc.
C'est
et puis, faites le commerce, le business sera bon pour nous. Voilà, c'est le communisme d'État. C'est le communisme d'État ultra-libéral. C'est un exemple clair et net. Ceux qui ne l'ont pas fait se sont tentés à des voies communistes et se sont encore, avec beaucoup de choses intéressantes probablement, sur la santé, l'éducation et tout, mais ce sont des régimes qui privent leurs citoyens de liberté, si je pense à Cuba et tous ces pays-là, et qui les laissent dans une situation de pénurie, alors que c'est des pays qui devraient vivre dans l'abondance.
Merci Gilles Denigo. On a parlé de cette question sociale. On a surtout commencé cette longue série d'entretiens sur ce qui vous anime. Et c'est une personnalité hors du commun, très connue d'ailleurs dans notre région, sur la Presqu'île, mais aussi évidemment à Saint-Nazaire. Gilles Denigo, qui est mon invité.